France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Bonjour à tous. Vous êtes près d'1,5 million d'auditeurs à l'écouter entre 13 et 14 heures. Avec lui, vous avez le programme tous les jours, de l'actualité, un invité, une chanson, une plongée dans la vie de nos concitoyens et quelques minutes d'histoire avec Jean Lebrun pour clore cette grande session d'information. Je reçois aujourd'hui Bruno Duvic aux manettes du 13-14 de France Inter. Bonjour Bruno.
Bonjour Emmanuel.
Nous allons évoquer ensemble la proximité, la citoyenneté. Nous allons voir comment ces notions se traduisent sur l'antenne dans le 13-14 avec les délocalisations. Bruno Duvic, chaque jour à la mi-journée, votre sommaire se termine par une formule rituelle. Je vous laisse la prononcer.
Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et donc bienvenue sur les chantiers Jeannot, groupe Beneteau, le leader mondial des navires de plaisance, l'une des entreprises emblématiques du dynamisme économique de cette région des Herbiers en Vendée. Et le 13-14 continue de se déplacer en France. Nous sommes aujourd'hui dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Limoges. Le pont aérien, après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul, a remis cette question de l'accueil des réfugiés au cœur de l'actualité. Alors nous avions envie de voir très concrètement comment cela se passe.
Donc nous sommes de retour dans l'usine ST Microelectronics ici à Crolles, la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs en France. Alors comment fabrique-t-on ces produits dont la pénurie grippe l'économie mondiale en ce moment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour commencer, je dois vous dire qu'il va falloir mettre un équipement très particulier. Les conditions d'hygiène sont encore plus importantes que dans un bloc opératoire.
Depuis le début de la saison, une saison particulière puisque c'est une année de campagne présidentielle, vous avez à plusieurs reprises présenté votre 13-14 depuis des villes différentes, les Herbiers en Vendée, Limoges, Commercy dans la Meuse. Quels sont les objectifs de ces 13-14 en région ou en province puisque vous aimez bien employer ce mot?
Oui, moi je préfère province, je trouve ça moins hypocrite, il y a quelque chose d'administratif et d'hypocrite à dire région. Déjà, il y a une chose qui me frappe là dans les extraits que vous avez passés, le ton n'est pas le même. C'est aussi pour ça qu'on se déplace, c'est pour avoir un ton qui sort du récit habituel de l'actualité et bien sûr pour rencontrer directement les personnes qui nous écoutent, les personnes dont on parle, les personnes qui font l'actualité et leur donner la parole. Alors on leur donne la parole tous les jours via les rendez-vous avec les auditeurs, via les reportages de la rédaction, mais aller chez les gens, entre guillemets, aller sur le terrain. Et pour une émission d'une heure, ça aboutit toujours à une parole plus détaillée, plus profonde, plus sincère peut-être. Sincère, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà, on obtient une parole et une tonalité différente.
Selon quels critères vous choisissez les villes?
Alors, avec Sarah Guibaudot, qui est la rédactrice en chef du 13-14, on pense d'abord à une thématique, généralement. Quand on voit à la rentrée que la question de la pénurie de main-d'œuvre risque de gripper la reprise économique et qu'on a envie de traiter ça, on se dit où est-ce qu'on peut aller? Eh ben, on se dit sans doute que dans les régions où le chômage est déjà très bas, la question de la pénurie de main-d'œuvre est encore plus problématique. Alors on choisit les Herbiers, qui est connue pour être une des zones en France où il y a le moins de chômage. La question des toujours en lien avec les pénuries, mais autres pénuries, les semi-conducteurs se posent. On se dit voilà, les semi-conducteurs, c'est de l'économie, c'est aussi de la souveraineté économique, ça va traverser la campagne. Où est-ce qu'on peut aller? Il y a une très grande usine de semi-conducteurs, on va à Grenoble, à Crolles précisément. Donc d'abord la thématique et le lieu où ça s'incarne le mieux.
Et alors à l'inverse, est-ce que des villes vous sollicitent pour que vous veniez?
Pour l'instant, pas encore, ou en tout cas Sarah ne me l'a pas dit, parce que c'est elle qui beaucoup travaille sur la préparation de ces délocalisations, mais ça va sans doute venir.
Les auditeurs reprochent régulièrement aux antennes nationales d'être trop parisianistes. Est-ce que c'est une manière de tordre le cou à cette critique?
Alors, je crois que c'est une critique qui a été reçue et entendue maintenant, depuis un bon moment, sur France Inter.
Largement relayée par les courriers des auditeurs.
Toujours?
Alors, pendant des années, oui.
Voilà.
Alors peut-être qu'effectivement maintenant on en reçoit moins, mais c'est une critique qui a été quand même récurrente.
Écoutez, ça fait une vingtaine d'années, oula, déjà que je suis à France Inter, moi j'ai le sentiment qu'on va encore plus sur le terrain qu'avant, encore une fois avec les reportages de la rédaction, les émissions qui se déplacent, alors au sein de la rédaction on est celle qui se déplace le plus, mais il y a beaucoup d'autres déplacements, donc il faut toujours être attentif à cela. Je pense que c'est un ton plus que c'est pas seulement un lieu où on va en reportage, en émission, c'est aussi un ton et le fait effectivement d'aller dans des délocalisations comme ça, ça change un petit peu le ton et peut-être que ça casse, oui, le côté un peu parisianiste.
Alors, au-delà de changer le ton, ouais, ces échanges sur le terrain, au cours desquels donc les citoyens partagent leurs préoccupations avec vous, qu'est-ce que cela vous apporte en tant que présentateur habituellement en studio à Paris ?
Eh ben, on capte des choses qu'on ne capte pas en studio. Par exemple, quand on va aux Herbiers, qui est donc une des zones où il y a le moins de chômage en France, on comprend en discutant avant, après, pendant l'émission, que la part d'informel, les discussions informelles entre les entrepreneurs, Pôle emploi, les élus locaux, que cette part-là joue un rôle clé dans le fait qu'il y a très peu de chômage dans cette région. Quand on va, par exemple, aussi à Crolles parler des semi-conducteurs, eh bien, on comprend qu'il y a toute une histoire, là aussi, en discutant de manière informelle avec les gens, qu'il y a toute une histoire qui part de la montagne, de la papeterie jusqu'à l'électronique. On capte des choses qu'on ne capte pas en studio. À Commercy, par exemple, l'émission sur les Gilets jaunes, je sais qu'on va en parler. Moi, j'ai réalisé à quel point l'écart entre ce qui peut être annoncé en matière de pouvoir d'achat et ce qui est perçu à tort ou à raison, l'écart, il est énorme.
Eh bien, direction Commercy.
Un mot pour vous décrire l'endroit où nous sommes installés, sous notre petite tente au bord du rond-point, lieu typique des entrées de ville où passent en voiture des millions de Français chaque jour. Des grands magasins entrepôts, Bricomarché, Discount Netto, une entreprise de carrelage, une de chauffage. Et à nos pieds, ce rond-point décoré de trois vaches bleues où convergeaient les gilets jaunes. Bonjour Emmanuel Henry.
Bonjour.
Vous avez 49 ans, deux enfants, vous êtes préparatrice de commandes dans la grande distribution. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours là ?
Bah parce que depuis trois ans, il n'y a toujours pas de changement, les revendications n'ont pas abouti, il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat, on est toujours en train de survivre et pas vivre.
C'est quand même une ville où la précarité est très grande, le taux de chômage est de 25%.
Vous êtes prête à remanifester ? Vous êtes là aujourd'hui ?
Oui, je n'ai pas arrêté de manifester parce qu'il y en a marre. Et on parle pas des policiers ou des gendarmes qui nous tapent dessus alors qu'on manifeste pacifiquement.
Le 17 novembre 2018, les premiers gilets jaunes se rassemblaient sur les ronds-points pour protester contre la hausse attendue des prix des carburants, consécutif à l'instauration d'une taxe carbone, finalement abandonnée. Le mouvement a rassemblé des dizaines de milliers de personnes lors de rassemblements dont certains ont connu de très graves débordements. Trois ans après, que reste-t-il des gilets jaunes ? C'était la thématique du 13-14 à Commercy la semaine dernière. La parole a été donnée à des gilets jaunes et cela a suscité une très vive incompréhension de la part des auditeurs de France Inter. Je vous lis quelques messages.
Allez-y.
Aujourd'hui, vous osez fêter les trois ans des gilets jaunes. Je trouve cela honteux de votre part. Ils ont cassé Paris, ils ont rendu la vie impossible à des millions de Français et vous osez les glorifier en faire la une de vos journaux. Je suis scandalisée. France Inter a visiblement très envie de voir repartir les gilets jaunes et ouvre avec complaisance son antenne à des propos irresponsables. Autre message, pourquoi voulez-vous relancer les gilets jaunes ? Vous êtes une radio publique, vous devriez être neutre, mais ce n'est pas le cas. Et puis enfin, je ne comprends pas une telle célébration. On se souvient des difficultés que ce mouvement a engendrées dans toute la France et de l'image négative qu'il a donnée dans notre pays sur la scène internationale. Cette célébration semble vouloir créer un événement. Est-ce le rôle, la mission du journalisme ? Bruno Duvic, donner la parole à des gilets jaunes, c'est un choix éditorial. Est-ce qu'il s'est imposé facilement au sein de la rédaction ou est-ce que cela a fait l'objet de discussions ?
Il s'est imposé assez facilement au sein de la rédaction. Il n'y a pas eu de discussion particulière. Je voudrais reprendre les mots que vous avez utilisés.
Ah bah alors, je peux vous les redonner.
Non, mais je les ai passés au fluo dans ma tête. On n'a pas fêté, on n'a pas glorifié, on n'a pas fait preuve de complaisance, on n'a pas cherché à relancer les gilets jaunes. Simplement, il y a eu ce mouvement qui a eu une part importante dans le quinquennat, avec des problématiques qui étaient présentes au départ du mouvement, qui le sont à nouveau, hausse du prix de l'essence, pouvoir d'achat. Il y avait une date qui était donc celle des trois ans des Gilets jaunes. Ça nous semblait avoir du sens de retourner les voir, de voir comment ça se passait, ce qu'ils disaient. C'est presque le contraire, on nous a reproché longtemps, à nous médias au sens large, de les avoir ratés, de pas leur donner la parole. Et c'est vrai qu'on n'entend pas très souvent dans les médias une dame comme Emmanuel que vous avez entendue, on lui a donné un peu longuement la parole, préparatrice de commandes en supermarché. On n'entend pas souvent, il y avait une autre dame qui s'appelait Karine, qui est femme de ménage. On les entend pas souvent se raconter. Je vois pas pourquoi on leur donnerait pas la parole. Et l'idée, vraiment, n'était pas de relancer le mouvement. c'était de se dire, voilà, 3 ans après, on en est où? On reproche souvent, là aussi, guillemets, aux médias de ne pas avoir de suivi dans leur traitement de l'actualité. Bah là, on a fait une forme de suivi.
Mais est-ce que vous comprenez les réactions très vives des auditeurs? Est-ce que c'est symptomatique de l'époque où l'on observe quand même une très grande difficulté à écouter les points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord?
Je les comprends. Ce que je comprends, en fait, c'est de se dire, il y a eu des mouvements, des actes de violence, des manifestations violentes, qui ont émaillé ce mouvement des Gilets jaunes et qui l'ont accompagné lors des, notamment les samedis au cœur de l'hiver. La question de la violence, je leur ai posée, je crois pas avoir fait preuve de complaisance. Donc je comprends qu'on puisse être choqué et ne retenir de ce mouvement que la violence, mais je comprendrais qu'on soit choqué si je n'avais pas posé cette question, mais je l'ai posée, je l'ai reposée, je les ai interrogés là-dessus, enfin voilà.
Et sur le fait de cette difficulté à écouter cette différence?
Oui, bien sûr, qui vaut d'ailleurs aussi pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'à l'inverse, quand je leur ai fait valoir des arguments du style « mais il y a quand même eu des mesures prises pour le pouvoir d'achat, qu'en dites-vous » et que eux répondent non, rien du tout. Après, hors micro, ils peuvent vous dire mais vous êtes complaisant avec le gouvernement, à l'inverse, etc., etc. Donc oui, c'est un peu une caractéristique de notre pays qui se voit à travers les réseaux sociaux qui ne sont pas un miroir du pays. Hein. Mais oui, on a du mal à envisager le point de vue de l'autre, c'est vrai.
Et
c'est
vous,
notre métier à nous.
Alors justement, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur ce phénomène?
Alors je ne suis ni pour ni contre, déjà, en tant que journaliste. J'ai évidemment un avis que je garde pour moi en tant que citoyen, mais en tant que journaliste, je ne suis ni pour ni contre. Ça m'intéresse de voir qu'il y a un mouvement qui a duré quand même tout un hiver, qu'il se trouve que le même jour, France Inter a commandé un sondage, non pas pour relancer le mouvement, mais parce qu'il y avait une date symbolique et un contexte d'actualité intéressant dans la pré-campagne électorale. 40% des gens interrogés par Ipsos pour France Inter se disent proches du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est intéressant d'aller les voir.
En cette année de campagne présidentielle, quels sont pour vous les écueils à éviter lorsqu'on présente une grande tranche d'informations?
Tous les jours, quand vous êtes en direct pendant une heure, vous êtes quasiment sans filet, donc un mot malheureux peut vous échapper, vous pouvez vous tromper sur un angle, enfin voilà, la première chose c'est ça, et donc essayez d'être le plus rigoureux possible, et vraiment on essaye d'être le plus pluraliste possible, mais on n'est pas infaillible, mais voilà, l'alpha et l'oméga il est là.
Rendez-vous de la médiatrice.
Invité de ce journal, Yves Marignac. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Directeur du service d'études et d'information sur l'énergie Wise Paris, expert dans l'association Negawatt, qui regroupe des professionnels de l'énergie et des citoyens. Les renouvelables sont-ils moins chers que le nucléaire, Yves Marignac?
Alors oui, Yannick Jadot a raison de souligner que ces deux filières font l'objet d'évolutions tout à fait opposées. Les coûts du nucléaire n'ont cessé d'augmenter et les projections pour des nouveaux réacteurs ne font pas exception à cette règle, alors que les renouvelables ont connu ces dernières années des réductions extrêmement importantes et sont aujourd'hui incontestablement beaucoup plus compétitives.
Alors on précise que vous plaidez, hein, vous, pour le développement des énergies renouvelables. Yves Marignac, je vous ai bien compris, si l'on intègre pas seulement les coûts de production, il y a davantage bataille entre nucléaire et renouvelable.
Alors il y a davantage bataille, effectivement. Et maintenant, au niveau des coûts, c'est relativement serré et c'est en fait très dépendant des hypothèses que l'on retient sur les renouvelables d'un côté et le nucléaire de l'autre.
Le 15 novembre dernier, Yannick Jadot était l'invité du grand entretien de Léa Salamé et Nicolas Demorand. Au cours de l'interview, il a déclaré « Le nucléaire que propose Emmanuel Macron est au moins 2 fois plus cher que les énergies renouvelables ». Dans le 13-14, vous avez souhaité, Bruno Duvic, revenir sur le sujet. La question a été posée à Yves Marignac, membre de l'association Negawatt. Cette interview a suscité beaucoup de réactions d'auditeurs extrêmement sensibles au sujet du nucléaire et des énergies renouvelables. Ils ont regretté que la contradiction n'ait pas été apportée à Yannick Jadot par un interlocuteur d'un point de vue opposé. Alors voici quelques messages.
Je vous dis tout de suite qu'ils ont raison. Allez-y.
Très bien. Alors pour ceux qui ne nous ont pas écrit, nous livrons quand même la teneur de ces messages. Negawatt s'affiche explicitement contre le nucléaire et pour un 100% renouvelable. On ne peut donc pas considérer que les experts de Negawatt puissent apporter une réponse objective à la question posée sur la compétitivité respective des deux sources d'énergie. Je m'étonne de l'absence de contradiction. Le rôle d'une radio de service public n'est-elle pas d'apporter une information objective ou alternativement des éléments contradictoires pour que chacun de vos auditeurs puisse forger une opinion. Un autre message, pourquoi ne pas avoir demandé à un pro-nucléaire d'apporter un autre regard, par exemple scientifique? Alors Bruno Duvic, vous avez amorcé votre réponse, mais quand même, que répondez-vous à vos auditeurs?
Globalement, c'était une erreur après l'échange entre Yannick Jadot et Léa Salamé de donner à nouveau la parole à quelqu'un qui est plutôt pro-énergie renouvelable et même pro-énergie renouvelable pour en quelque sorte jouer les arbitres. Voilà, c'est pas Yves Marignac qui est en cause. Lui est informé, compétent, mais effectivement, il est d'un côté. On s'est heurté ce jour-là à deux choses. L'expert neutre n'existe pas. L'expert est toujours plutôt d'un côté. Alors après, il est plus ou moins honnête, plus ou moins informé. Et Yves Marignac est quelqu'un d'honnête et informé. Petit 1 et petit 2, pourquoi c'est lui qui a été choisi à l'antenne? C'est aussi une mécanique de fabrication. C'est-à-dire qu'en conférence de rédaction, on se dit il faut quelqu'un pour arbitrer. Et on se dit cherchons un expert le plus neutre possible. Et puis les heures passent entre la fin de la conférence de rédaction autour de 10h moins le quart et le 13h. Et puis on a du mal à trouver. Et donc on fait le choix d'Yves Marignac qui, encore une fois, lui est compétent, mais qui effectivement d'un côté, donc quand on nous accuse d'être allé d'un côté sur ce coup-là, c'est vrai, ça n'est pas volontaire, au sens ça n'est pas une manipulation pour aller dans le sens des énergies renouvelables. Quelque temps avant, on avait reçu le député Agir, proche de la majorité, Thomas Gassilou, qui avait défendu le plan de relance du nucléaire. Donc ce qui est regrettable quand on fait des erreurs, ça arrive, mais très sincèrement, il n'y a jamais de manipulation volontaire.
Et puis, j'indique également que l'équilibre entre les différents courants de pensée politique, économique, anime évidemment la rédaction, et que la recherche du pluralisme que vous avez évoqué tout à l'heure, eh bien, c'est le principe qui dicte l'invitation à une personnalité. Et sur l'antenne, cet équilibre se tisse au fil des invitations, comme vous venez de le dire, et on ne peut pas en juger à l'aune d'une seule interview entendue à un instant T, en l'occurrence, le représentant de Negawatt, invité donc dans votre 13-14. Et puis, j'ajoute que le respect de la pluralité des points de vue, c'est une priorité qui guide la direction de France Inter pour vous informer et pour favoriser le décryptage des grands enjeux qui traversent notre société. Et au sujet du nucléaire, eh bien, entre la COP26, le rapport RTE et l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, qui a confirmé la future commande des nouveaux réacteurs, il y a eu de nombreuses invitations et bien sûr des reportages dans les journaux, vous en avez encore cité Bruno. Au total, donc, entre la mi-octobre et aujourd'hui, la parole a été autant donnée aux pro-nucléaires qu'aux anti, même si cette classification peut s'avérer hasardeuse quand les débats tournent autour surtout de la question du bon mix énergétique. Et pour les auditeurs que cela intéresse, et nous savons encore une fois que vous êtes très sensible à la question de l'énergie, eh bien les différents invités, les émissions évoquant le sujet depuis un mois et demi sont à retrouver sur le site de la médiation où vous pouvez réécouter toutes les interviews, et notamment dans le 13-14. Merci Bruno Duvic.
Merci Emmanuel.
D'être venu répondre aux questions des auditeurs. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, vous pouvez nous écrire sur le site médiatrice de Radio France. À la réalisation de cette émission aujourd'hui, Béatrice Bessière et Frédéric Milano, et à la technique, Florian Dorémini.